Là, vous mettez, pour qu'il y ait une concordance avec les grandes prises de conscience et puis les appellations initiation, vous mettez le sentier de probation, c'est-à-dire qui mène à la deuxième initiation, alinéa 6. Le sentier de probation qui mène à la deuxième initiation, en vous rappelant que la deuxième initiation, c'est l'acceptation par la hiérarchie des âmes de l'être dans le cinquième règne. La deuxième initiation qui est appelée le disciple en probation, disciple, bien évidemment, je vous rappelle, c'est celui qui se discipline aux lois de la vie qu'il saisit. Et quand l'être franchit la deuxième initiation, c'est-à-dire qu'il a montré qu'il n'était plus dépendant de ses passions émotionnelles, eh bien, il est accepté dans la hiérarchie des âmes, c'est-à-dire le cinquième règne. Et bien évidemment, il va s'épanouir dans la conscience de groupe, c'est-à-dire je ne suis plus le centre du monde, mais une unité dans un vaste ensemble dont les centres sont partout et la circonférence est nulle part. Ensuite, il y a à intégrer le désintéressement. Il n'y a plus d'avidité au matériel, qui va se concrétiser par la libération du désir de posséder. Il faut faire attention que ça n'est pas que matériel, hein, le désir de posséder. Ça peut aller à posséder l'autre, hein, c'est-à-dire... Et là, c'est en fait la libération de l'envie, l'envieux.
On peut manipuler l'autre sans envie.
Ah non, mais là on est dans de posséder. Pas posséder au sens manipuler l'autre, au sens d'accumuler, tu vois, c'est-à-dire de par l'homme d'envier, par exemple, sa femme. L'établissement du sens de réalité comme principe directeur de vie. Alors là, il faut savoir que c'est la pierre angulaire qui un jour lui permettra d'user du vrai. Et nous avons là un fondement du non-orgueil, c'est-à-dire de l'humilité. Imaginez pour la personnalité, avec mon mental concret, je peux manipuler la réalité des choses. Et bien sûr, je sors du vrai. Mais, à ce stade-là, cette notion de s'attacher à la réalité émerge, qui ultérieurement sera confortée par l'attachement au vrai. Attendez, c'est énorme, hein. Quand vous voyez que le comportement habituel humain, c'est on présente les événements de notre façon. Bah, la meilleure preuve, si vous voulez, c'est que si le vrai était vraiment géré, il y a beaucoup d'avocats qui n'auraient plus de boulot. 10. Le retour du fils prodigue à la maison du père. Alors, c'est la phase où l'être se dit « Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que je vive tout ça ?» Ça veut dire que l'être entame l'entrée au désert, ce qui va mener l'être à la quatrième initiation, celle du renoncement.
La troisième entre-temps.
C'est la maîtrise, début de la maîtrise, le vrai. Tu vois, mais pas dans sa phase plénitude. Ça émerge, c'est-à-dire que c'est plus latent, ça devient potentiel, et de plus en plus l'âme l'interpelle en disant la réalité, pas manipuler les situations, pas arranger la réalité à ce mode. Ça veut dire que dans cette vie ou série de vies, s'il avance mal, là, il sera dépouillé de tout ce qui est encore ses attaches.
Là, les attaches, c'est comme matériel ou
aussi... Non, tout. Tout ce qu'il n'est pas encore maîtrise devient obstacle à franchir. Donc, ça peut être une ou plusieurs têtes de lidant. Mais n'oubliez pas, notre agent karmique, c'est notre âme. C'est notre être qui impose, hein, attention, hein. Le côté Dieu vengeur, ça c'est à l'heure. Hein. Le Père est un seigneur d'amour. Je vous rappelle donc que le karma, c'est la main du Père, donc des guides, qui disent « Halte au feu, ça va trop loin. Tu ne pourras pas remonter si tu continues à t'enfoncer dans ces travers. » L'application et l'utilisation de l'énergie pour des desseins de groupe en coopération avec le plan pour le tout. À côté, vous mettez l'occultiste. Pour développer plus précisément, l'être prend conscience que sa pensée, c'est de l'énergie, que cette énergie est créatrice et que par conséquent, il est en train d'émerger en tant que serviteur de la maison du Père. Qu'est-ce que la coopération avec le plan? Le plan, eh bien, si nous comprenons que le dessein du Père pour cette terre et pour l'humanité, c'est une société de justes relations, le bien de l'ensemble. Ça, c'est le dessein du Père pour l'humanité. Le plan, c'est où en est la civilisation actuelle par rapport à ce dessein. Parce que vous voyez bien la nuance entre un dessein et un plan. Le dessein, c'est le but attendu. Le plan, c'est où on en est. La vie de l'âme avec tout ce qu'implique cette phrase. Ben, la vie de l'âme, en fait, c'est de savoir qu'il n'y a pas mon âme, ton âme, son âme, il y a l'âme. Par conséquent, tout être humain, dans sa réalité d'être, est un être de lumière. Abel est un être de lumière. Abel est donc un initié au mystère du Père. Pourquoi mystère ? Parce que l'homme a été jeté dans les ténèbres, et par conséquent, il a perdu la lumière du monde. Et Ab, dans sa racine, ça veut dire fils. Ab.
Oui, mais Ab, oui, mais en hébreu, c'est le contraire, ça veut dire père.
Oui, mais le père en incarnation est le fils. Et il doit devenir le père, dans le schéma. La vie, c'est le créateur qui projette sa création, qui s'investit dans la création, doit émerger en tant que créature et retourner à son créateur et redevenir le père. Pour dire autrement, le fils devenu Christ est l'époux de la mère, c'est-à-dire des vies mineures. Il les a épousées parce qu'il a purifié la mère. Et devenant l'époux de la mère, il redevient le père. Mais il redevient le père parce qu'il assume le dessein du père. L'injonction de votre être, c'est « deviens ce que tu es ». Et on le devient parce que on sert la maison du père. La vie est en nous. La vie est en chacun de nous. Oui. Celui qui donne la vie à la planète, nous l'appelons le Père. Et le Père attend que nous lui ressemblions. Donc comment devenir le Père ? Celui qui me voit, a dit le maître des guides, voit le Père. Parce que je suis dans son champ de conscience. Donc tout être qui assume cela devient Christ. Or, pour passer de Christ au Père, il faut la volonté du Père. Donc assumer la volonté père, qui est la volonté de bien de l'ensemble. L'amour de Dieu par opposition à l'amour de soi. Alors, j'aimerais qu'à la place de Dieu, vous mettiez au-dessus de la vie. Dieu, énergie, vie, c'est pareil. Mais, comme je l'ai déjà dit, dire à quelqu'un « tu es la vie », comme on dit, il est bien dans ses baskets, dire à quelqu'un « tu es Dieu », là, il...
là, il pète les plombs.
L'attachement à ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire au réel, à l'invisible par rapport au concret irréel. Et par conséquent, au vrai. Le vrai, je vous le rappelle, est l'énergie du mental supérieur. C'est une qualité de la nature du Père. Quand vous pratiquez le vrai, vous utilisez l'énergie du mental supérieur. Quand vous pratiquez le beau, vous utilisez l'énergie du plan christique ou bouddhique, mais le beau en majuscule, hein, c'est-à-dire toute chose qui est faite avec haute qualité, le summum étant l'élégance. Et quand vous pratiquez le bien de l'ensemble, donc vous l'appliquez, vous éveillez, vous pratiquez l'énergie de la volonté du Père. Ce qui veut dire que quand vous pratiquez qualitativement ces pensées, ces énergies, eh bien, vous devenez la nature du Père. Le maître des guides, qui est l'épicentre d'amour, sagesse pour l'humanité, vous dit, chaque fois que vous usez de cette énergie, je suis en vous et vous êtes en moi. Sortons de la forme, qui n'est qu'un véhicule. Le 15e alinéa, la libération complète du contrôle du mental inférieur. C'est-à-dire que le mental concret, le mental composite de toutes nos vies mineures, donc de notre non-soi, physique, émotionnel, mental, concret, eh bien, ce mental composite, l'intellect, est en réalité le sens de synthèse de nos sens physiques, émotionnels et mentaux. Ce n'est que ça. Donc, c'est un outil. Il cesse, en fait, de dominer la situation. Il obéit à l'être que vous êtes en réalité. Donc, votre réalité de conscience, votre âme, est à bord et a fusionné avec votre personnalité. Cain et Abel sont redevenus un. à partir de là, le canal pour que la matière remonte au ciel et pour que le ciel descende sur la terre, eh bien, est aligné. Pourquoi ? Parce que il fallait nettoyer les robes de la mer. C'est l'humanité qui a fait pipi pendant 18 millions d'années dans le bocal. Puis après, il faut faire descendre le ciel sur la terre. Donc, en pratiquant le vrai, le beau, le bien, le pur. Le pur est la synthèse du vrai, du beau, du bien. L'être devenant l'époux de la mer est cristal. Quand il devient le père, il est cristal diamant. Mais pour devenir diamant, il doit servir la volonté du père, c'est-à-dire le bien de l'ensemble. Le Père, qui donne la vie à la planète, a pulvérisé sa vie sur tout ce qui vit, au même titre que nous, nous donnons vie aux cellules, aux vies mineures de notre corps, physique, émotionnel, mental. Donc, comprenons, nous faisons vivre ces vies mineures. Dans un premier temps, on a cru que c'était nous. C'est pour ça que vous mesurez mieux ce que veut dire « tu es poussière » et ça retournera en poussière. Mais c'est pas toi, t'inquiète pas. N'oubliez jamais que la mort, c'est dans ce sens-là, c'est pas dans ce sens-là. Quand nous venons sur Terre, nous mourons. Quand nous quittons ce plan, nous nous libérons de nos vies mineures. Et tant qu'on ne les a pas amenées au ciel, ça veut dire que chaque vie mineure va franchir les sous-plans d'évolution. Par conséquent, quand nous avons fait cela, nous avons fait notre contrat de vie et nous sommes libérés. Mais comme nous sommes devenus un seigneur d'amour et de sagesse, eh bien, nous tournons le dos à la maison du Père en disant au Père, le travail n'est pas fini. Je rentre pas. C'est pas beau l'amour. Depuis 2000 ans, à la demande du maître des guides, donc de Maitreya, du Christ, tous les êtres qui franchissent la porte de sortie, Maitreya leur a demandé, pour soutenir l'aboutissement de son retour, de différer leur évolution cosmique. Les êtres sont libres, hein. Les êtres ont obtenu la porte de le billet de sortie, ils peuvent très bien dire, ça ne me regarde pas, moi j'ai fait mon boulot. Comme ce sont des êtres d'amour, sagesse qualifiés, aucun n'a refusé de retourner au Tachar, au risque de se planter. Comme le chantier est lourd, ils prennent des vies mineures qui peuvent être lourdes pour, comme on dit,
comme travail.
Autrement, à triompher sans risque,
à vaincre sans péril, en triompher sans
gloire. Encore un chemin d'épreuve.
C'est le risque. C'est le risque.
Il reste beaucoup des vies mineures.
Bonne question.
Oui.
Si vous imaginez qu'aujourd'hui la grande majorité des êtres humains entretiennent tous les jours ces vies mineures dans leur boue et ceci et cela.
Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quoi ces vies mineures? C'est la vie du Père récemment dans les robes de la mère. Donc on souille à la fois le Père et la mère. Une vie qui débute, elle est près de sa source, donc elle est divine, mais en conscience, elle est très, très limitée. Elle est pauvre. Et c'est l'expérience de l'évolution mérite qui amène les dimensions de conscience.
Je crois que j'ai compris, mais maintenant il y a des travaux.
Alors, en parlant de ce travail, il faut avoir des repères. Lorsqu'un être se retrouve en tant qu'être, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pas la première vie où vous le faites. Je ne m'adresse pas à des jeunes disciples de la vie. Je m'adresse à des êtres qui sont passés notamment par toute la période mystique, disciples en probation. Je m'adresse à des êtres qui sont interpellés pour à la fois bien comprendre l'invisible, les mystères de la vie, du pain, et deuxièmement de servir la vie. Alors à partir de là, dans ce rôle de station d'épuration, l'être a fait l'essentiel de son propre nettoyage, mais il faut qu'il comprenne que là où il va se passer, il se peut qu'il récupère des lutins errants, qui n'en peuvent plus tellement, ils n'arrivent même plus à occuper les populations autour, tellement ça brasse la cour des miracles. Eh bien, sachez que vous pouvez avoir, très curieusement, dans votre espace mental, une vie qui vous sollicite un petit lutin et qui va se traduire par une perception lourde, sale. Et vous dites, mais c'est pas moi. Or, en fait, ce n'est qu'un petit lutin qui vous dit, tu peux pas me blanchir au passage ? dans les 12 secondes de ton nettoyage, là, tu peux pas me neutraliser. Ils m'ont foutu une casaque sur le dos, je suis lourd. Donc ne soyez pas étonnés si, dans ce processus, vous voyez apparaître des pensées polluantes. Alors c'est d'autant plus gênant au début, c'est que vous allez croiser un être humain et en fait, il y a un lutin qui dégage de lui. Ça veut dire que sans avoir apporté votre regard et ni à juger, vous savez par exemple que cette personne est très perturbée par ceci, par cela.
Il y a des modes de protection pour ça. Ah
ben, si tu perçois par exemple une vibration de haine, parce qu'en fait tu vas le sentir sous forme de vibration, hein, dans la réalité c'est une vie mineure. Hein, bon, eh bien, tu te dis, attends, hein, c'est pas moi. Mais par contre, tu vas être dans le métro et puis tu sens de la haine qui te sollicite, par exemple, vis-à-vis de telle ou telle personne. Ben, tu as 12 secondes pour clarifier la situation en disant pas question et je neutralise.
Il suffit de penser, je neutralise et ça neutralise.
La pensée pouvoir. Bah oui, hein, vous la nourrissez ou vous la laissez de côté, elle meurt. Elle meurt, elle n'est plus alimentée. Mais c'est ce qui fait qu'au contact, eh bien, vous apercevrez que tout ça vous donne des perceptions subtiles. Ce qui aboutira un jour, quand l'être sera vraiment en état permanent d'âme, hein, vous voyez ce qu'on a dit là, pas ton âme, mon âme, mais quand vous serez en état d'âme, c'est-à-dire un amour permanent immuable. Vous allez avoir un dialogue de l'âme de l'autre avec votre être. Et c'est comme ça que se fait la guidance au sens réel du terme. L'âme de l'autre aide et soutient son petit frère en incarnation. La médiumnité, les médiums le font par le corps astral. Mais un guide véritable le fait d'âme à âme. Abel de l'autre dit à Abel, j'ai tel sujet que j'aimerais bien que mon Caïn comprenne. Vous voyez le rein, c'est comme ça que ça se fait. Là. La réalité... Ce qui n'a pas de forme, Dieu. Alors, je vous l'ai dit, hein, je vous ai dit que tout ça, c'est des champs de conscience. Que lorsque nous arrivons à la maîtrise, nous sommes dans le vrai, au sens où nous regardons la réalité, nous la respectons. Nous franchissons la troisième prise de conscience qu'on appelle initiation, puisqu'on atteint ces plans de conscience. Quand nous sommes sur ce champ de conscience, la quatrième initiation, où nous renonçons à tout ce qui est laid et lourd. Et donc, c'est le dépouillement. Quand nous sommes à la cinquième, nous sommes en tant que serviteurs de la vie. Quand nous sommes ici à la sixième, l'autre est une partie de moi-même et vice-versa. Mais c'est vécu en conscience. Et à partir de là, ben, vous êtes le Père. Puisque vous êtes dans le même champ de conscience, puisque le Père, sa manifestation, c'est tout ce qui vit sur la planète. Alors quand je vous dis l'autre une partie de moi-même, y compris les règles de la nature, y compris les êtres énergie. Donc ça veut dire que vous marchez divinement sur la Terre. La compréhension, c'est assez simple. Après, il faut l'assumer.
Comme les Elohim.
Les Elohim, c'est les guides d'origine. C'est les guides d'origine. Venus d'ailleurs pour guider cette humanité. Ce qu'au-delà du règne humain, tu pourras choisir de faire pour une nouvelle humanité dans les confins de l'univers. Puis un jour, tu diras, compagnons d'antan, ils sont comment tes humains? J'en connais un notamment qui me ressemble beaucoup. Et quand vous arrivez là, eh bien, au premier plan, alors là, vous entrez dans des dimensions de relations de grande vie dans la vie. Vie une. Quand l'être est devenu cristal diamant, des grandes vies dans les sept univers peuvent très bien dire « Tu es en moi, je suis en toi. Tu es suffisamment clair pour que je ne prenne pas de retour de pollution. Donc je peux dialoguer. » D'où l'être-té. Je vous envoie maintenant à la page 15. Comment sont classés les êtres que nous sommes en tant qu'êtres ? Nous avons d'abord les âmes qui vivent mais dont la conscience est en sommeil. Nous avons ensuite les âmes qui sont simplement conscientes de la vie et des sensations sur le plan physique. Vous aurez ensuite les âmes qui commencent leur intégration et qui sont émotionnellement et psychiquement éveillées. Les deux premiers cas, vous mettez de 1 à 7 ans en tant qu'âge d'évolution. Le 3 et 4, vous mettez de 7 à 14 ans. Ensuite, vous mettez pour les âmes des êtres humains intelligents, ces êtres restent cependant d'une manière prédominante émotionnelle Il constitue la masse de l'humanité moderne. Vous mettez de 14 à 21 ans. Alors ensuite, à partir de là, vous mettez entre les deux, vous avez les âmes qui pensent et qui sont des manteaux, leur nom augmente continuellement, elles constituent l'élite de la famille humaine, vous mettez les aspirants. En dessous, entre les deux, vous mettez le cinquième règne. Paul 6-7-7. Parce que ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on est obligé de séparer pour la compréhension du mental concret, mais en fait, il n'y a jamais de séparation. Normalement, les êtres sont toujours en transit, en évolution. Les âmes dont le plan de conscience sur le plan physique est actuellement d'un ordre tel qu'ils peuvent passer sur le sentier de probation. Donc, vous voyez, c'est la deuxième initiation. Donc, entrer dans le cinquième acte. Ce sont les mystiques conscients de la dualité déchirée entre les paires d'opposés. Il faut savoir, si vous voulez, que le stade du mystique, il est difficile à vivre parce que c'est la première rencontre entre le soi et le non-soi. Et par conséquent, les vies mineures, elles sont affolées. C'est la souffrance. Et c'est pour ça que vous voyez que combien de mystiques ont toujours eu des vies de torture sur eux-mêmes, au point de se flageller, de... Bon. Leur nature est vivante et active, mais ils ne peuvent pas encore la contrôler comme ils devraient. Les âmes dont l'intelligence et la nature d'amour deviennent si éveillées et intégrées qu'elles peuvent commencer à fouler le sentier de l'état de disciple. Ce sont les occultistes des temps modernes, vous mettez 28 ans à 35 ans. Ensuite, vous mettez entre le 8 et le 9, troisième initiation, et vous mettez la maîtrise. Ça ne veut pas dire qu'elle est acquise, mais ça veut dire qu'elle est en phase d'accomplissement. Pour ceux qui auraient encore quelques racines d'orgueil, appelez-moi maître. C'est le stade de la maîtrise. Un maître, c'est celui qui maîtrise. L'aboutissement du temps de la maîtrise, c'est la cinquième. Neuvième, les âmes qui sont initiées au mystère du royaume de Dieu. Ce sont les âmes qui sont conscientes non seulement de leur véhicule d'expression, la personnalité intégrée, conscientes également d'elles-mêmes en tant qu'âme, mais qui savent aussi, sans aucune controverse possible, qu'il n'existe rien qui ressemble à mon âme, à ton âme, mais qu'il existe simplement l'âme. C'est une réalité perçue en tant que fait dans leur propre conscience. En d'autres termes, il faut en avoir l'intime conviction, donc la foi. Vous avez là un stade qui accompagne la quatrième initiation où l'être est sur les charbons ardents du dépouillement. Et il faut qu'il garde l'intime conviction de sa réalité. Comprenons bien que nous sommes dans les 70 vies, mais ça peut durer plus longtemps. Les âmes qui ont atteint la libération de toutes les limitations de la nature de la forme et qui résident dans la conscience de l'âme unique, ayant renoncé à toute identification, à toute aspiration de la vie de la forme. Elles peuvent utiliser la forme à volonté et l'utilisent pour des desseins de bien général. Ce sont les maîtres de la vie, cinquième initiation. Ayant pleinement réalisé leur véhicule d'expression, elles s'en servent pour irradier l'énergie de vie. L'initié, c'est par rapport à un maître. Un maître, c'est un étudiant qui a atteint la maîtrise. Un initié, c'est celui qui assume ce qu'il sait devant être accompli pour la réalisation du dessein du Père, donc le plan qui se déroule sur la Terre. En d'autres termes, l'aboutissement étant une nouvelle civilisation de juste relation. Et pourquoi maître de la vie? Parce qu'ils savent qu'ils sont une fontaine et que partout où ils sont, s'écoule la vie du Père, à moins, quand on dit la vie du Père, c'est du Père-Mère, attention. Et à moins qu'eux-mêmes ont une défaillance, autrement c'est en permanence. Et cette énergie active aussi bien le positif comme le négatif. Tout le but de nos travaux, c'est d'amener les êtres à être des fontaines d'énergie de vie. Les textes qui ont été donnés par l'intermédiaire de Bélé de Blavatsky n'ont comme seul but que d'amener les êtres à être ce qu'ils sont. Vous avez des indications de repères. Et je pense que chacun de vous a déjà pu, en humilité, situer un petit peu... Simplement, vous arrivez sur un chemin où on vous dit « ça va monter ». Donc il va falloir tenir bon, hein, parce que
s'il ne suffit pas de le savoir, maintenant, il faut l'assumer. Si vous voulez, il faut faire tomber des leurres. Ces leurres, ça a été complètement cristallisé avec le Christ, seul Fils de Dieu. Ouais, à partir de là, silence radio, vous pouvez dégager, il n'y a rien à voir. Alors qu'en fait, nous sommes dans la nature de la réalité de la vie. Toute goutte de vie est amenée à devenir, à tout jamais, l'éternel pèlerin de l'absolu. Le schéma qui est devant vous, c'est « j'ai à devenir ce que je suis ». Et si vous regardez dans vos vies passées, les robes de bure, il y a longtemps qu'elles ont été accrochées au vestiaire. Même défroquées. Le problème, si vous voulez, c'est que nous ne sommes pas dans une réflexion intellectuelle. Nous sommes dans un horizon bien clair vers lequel on a avancé. On y va clairement ou on zigzague. Je vous rappelle quand même que le patron, il y a 2000 ans, il a dit « les tièdes, je les vomis ». Bon, peut-être bien cuit, peut-être bien non, ça ne lui vaut pas tellement. Hein. Ce que je voudrais souligner pour vous, c'est que quand vous travaillez la nuit, là-haut, ce que vous intégrez en conscience du cerveau, c'est quelque chose que, en tant qu'être, vous avez décidé dans cette vie d'assumer. Ce qui veut dire à chacun de vous de se dire « mon Abel m'a serré les boulons ». Vous avez des questions ?
Oui, qu'est-ce qu'on fait la nuit ?
Dois-je me servir de mon mental concret ou de mon mental supérieur ? En tant que mental concret, je risque d'être assez taquin. En tant que mental supérieur, eh bien, quand vous quittez votre corps, vous remontez sur ces plans ici, selon votre ligne de rayon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces trois aspects-là sont de même importance. Ils sont placés comme ça pour la compréhension de notre mental, mais en fait, ils sont équilatéraux. En d'autres termes, quand vous utilisez le vrai, vous utilisez l'énergie de la mer. Quand vous utilisez le beau, vous utilisez l'énergie de l'âme du Christ. Le bien ensemble, c'est l'énergie du Père. Et les trois aspects sont équilatéraux, puisqu'en fait, la vie a ces trois aspects. Et qu'en tant que goutte de vie, vous devez synthétiser sous forme du pur. Et puis vous passez la porte supérieure en devenant diamant, c'est-à-dire en étant le reflet de grande vie, bien au-delà du règne humain. À partir de là, la nuit, vous allez étudier là-haut. À partir de 4h, 4h30 du matin, vous descendez, et là vous travaillez à titre personnel sur le plan astral. Et c'est là où vous réfléchissez en disant, bon, j'ai tel problème là, je n'arrive pas. Mais la nuit, vous étudiez, il ne faut pas croire que quand vous quittez votre corps physique, donc lui, comme on dit, repos, hein, mais autrement, en tant qu'être, il n'y a pas d'arrêt de travail, vous travaillez là-haut, en tant qu'être.
Ce qu'il faut, c'est laisser reposer votre monde de vie mineure. Ils ont besoin de repos. Hein. Alors, ce sera étudié en son temps, mais essayez à l'avenir de sortir par le centre de la tête ou le centre du cœur. Parce que la perte de continuité de conscience, c'est parce que l'homme sort aujourd'hui par le plexus solaire. Donc, il perd sa continuité. Alors, ça veut dire que quand vous allez vous reposer sur votre lit, observez le processus qui se passe. Vous savez que l'endormissement, c'est notamment le fait qu'on ne nourrit plus de pensées. Tant que vous allez avoir une pensée qui vous taraude, vous êtes en levain, et puis vous n'arrivez pas à prendre le sommeil. Donc la prise de sommeil, c'est le fait déjà que les vies mineures du plan émotionnel ou du plan mental dorment. Alors là, c'est la phase difficile parce qu'il n'y a plus à moudre, mais il ne faut pas s'endormir. Donc pas passer par le plexus solaire. Comme je vous dis, par le centre cardiaque ou le centre de la tête. Parce que la finalité, c'est que l'homme retrouve un jour ce qu'il a connu à l'origine, c'est-à-dire la continuité de conscience.
Alors comment je fais pour que finalement je parte par le...
Au moment où vous avez couché vos vies mineures, dodo les petits, hein, les petits lutins, dodo tranquille, là vous dites, alors attention, là c'est là où je pars par où là, et puis vous observez. Et vous devez normalement entendre un... C'est-à-dire, en fait, vous êtes en train de traverser les plans.
Sensation de chute qu'on a parfois quand on se sent de...
Ça, c'est le retour. Vous descendez d'un plan supérieur et vous avez l'impression de tomber dans un puits noir.
Oui, oui.
Hein? Et puis vous arrivez dans votre corps. Mais la chute a été vertigineuse. Généralement, c'est beaucoup d'angoisse. Il faut faire attention parce que ça peut s'accompagner du fait de mal se remboîter. Ce qui a pour effet, c'est que vous êtes dans votre lit,
c'est bon.
Et puis je vais lever ma jambe. Ah, elle ne veut pas répondre. Alors il faut ressortir. Moi, ce que je vis très mal, c'est que j'ai l'emploi du temps, l'occupation de mes nuits, de mes jours qui est un peu particulière. Et par conséquent, j'ai travaillé quasiment toute la nuit et j'accorde 3 heures de repos à mon corps. Mais le téléphone, il sonne brutalement à ce moment-là. Alors, est-ce que vous voulez dire qu'il y a des retours? Et là, ça fait très mal.
Sur le chemin, pour rencontrer les petits lupins, alors.
Ne cherchez pas à sortir de votre corps pour faire l'expérience. C'est une nuance importante. Bon, alors, il y a 2 sorties. Il y a la sortie horizontale, où vous quittez en corps éthérique. Puis, il y a la 5e dimension, vous partez comme ça. Il ne faut pas chercher. Ce qu'il faut, c'est observer ce qui se déroule. Mais sans l'intention de provoquer une sortie consciente. Est-ce que vous voyez la nuance? Parce que il faut traverser l'astral, et donc il faut être invité par un guide à ce qui protège votre passage. Autrement, vous risquez d'être accroché dans le bas astral.
Alors, si j'ai tout compris, tu tenterais à dire que... Vraiment, ce que j'ai compris, c'est que si on provoque la sortie de son corps... On
ne t'en
pas accompagné, on risquait de rencontrer ce que j'ai appelé des petits
putains. Ah, ce n'est pas des petits putains, des entités. C'est des entités, c'est-à-dire des êtres qui sont des êtres humains désincarnés.
Dans le cas d'un état entre la veille et le sommeil, absolument conscientisé, c'est-à-dire pas couché par exemple, mais en bonne position assise, qu'est-ce qu'on rencontre?
Alors, tas de choses. Quand tu médites, donc tu t'alignes verticalement. Si tu es pris dedans, tu ne vas pas faire attention, mais en fait, tu changes de plan de conscience. Ce qui veut dire que ton corps est abandonné, au sens où tu ne perçois plus l'essence. Mais là, tu l'as, ton alignement. Simplement, tu es sur des hauteurs de champ de conscience qui font que tu as laissé pour compte ton corps physique. Tu vois ce stade-là? Dans la méditation, c'est ça. C'est le processus. Alors maintenant, vas-y, explique ton cas plus précisément.
Si on s'assied confortablement par contre, et puis que même quelquefois involontairement, on n'est pas l'impression non plus de quitter vraiment, enfin de sortir de son corps, pardon. Mais ça par exemple en conduisant, je voyais bien que c'était pas moi qui conduisais.
Il faut que tu fasses attention parce que tu prends un risque énorme. Ce risque énorme, c'est que cet état particulier où tu n'es pas pleinement dans ton corps, tu peux avoir la plaisanterie d'une entité qui vienne te remplacer et qui t'envoie dans le mur. À faire. Mais ça peut venir, si tu veux, d'état, le corps physique n'est pas en pleine peau. C'est-à-dire en pleine santé. Il y a des états secondes de fatigue ou autre où l'être décroche. Parce qu'en fait, on fait l'inverse de ce qu'il faut faire. Sur le plan terrestre, une faculté pleine et entière du corps énergétique lié au corps mental, c'est de se projeter en Maya Virupa. C'est-à-dire un corps qui est fait de substances mentales concrètes, astrales. C'est ce que font à un stade supérieur les guides. Ils se projettent en apparence de corps physique, indécelable pour un œil humain. Mais tu ne sauras pas que c'est un corps de projection.
Mais ils sont visibles, hein,
visibles. Non, ils sont visibles. C'est ce que faisait Saint-Germain et Racosi, au sens où c'est connu, si vous voulez. Ils étaient à la cour de Louis XIV le matin et ils étaient à Saint-Pétersbourg l'après-midi. Impossible avec les moyens de l'époque. Et pourtant, tout le monde atteste d'une façon historique que les Russes disaient mais nous, on l'a vu le même jour, on l'a vu de l'après-midi. Ah, nous, on l'a vu le matin. Alors, pour vous dire, quand Maitreya va revenir, il s'est préparé ce corps d'apparence pour 2000 ans. C'est-à-dire qu'il aura la faculté de se déplacer par la pensée, où il veut. Il sera le matin en France, il sera l'après-midi en Amérique. Il se crée un corps physique d'apparence qui n'est qu'une coque. Mais sa conscience est à bord.
Puisqu'il maîtrise la forme, évidemment. C'est bon.
Mais c'est ce qui attend là. On a notre racine de vie dans l'absolu. Un être et l'être T. Donc nous sommes tous potentiellement égaux. À un moment donné, l'être est arrivé à un stade d'évolution où la matière, la forme, est maîtrisée. Donc pourquoi prendre un tas d'os alors qu'on peut avoir la même présence? Mais c'est ce que fait par exemple
Marie quand elle fait une apparition. Là, elle utilise plus un corps énergétique parce que c'est temporaire et sa lettre est moins fatiguée. Mais autrement, c'est pareil. C'est se manifeste avec l'être se manifeste. Donc, l'être qui est Marie, qui est androgyne aujourd'hui, prend l'apparence du véhicule que les êtres humains connaissent le mieux. Donc, elle revient en image de Marie.
J'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui a une vibration très particulière, puisque quand je le vois entièrement bleu jusqu'en bas les pieds. Et plusieurs médiums m'ont dit qu'il venait d'une autre sphère. Et lui, c'est le contraire. Il vient apprendre à se servir de son corps et comment vivre cette vibration particulière sur la Terre.
Je ne peux pas répondre directement parce que il y a trop d'hypothèses.
Quand je me mets en je vois qu'en fait, il vient rayonner.
Oui, mais ça peut être purement simplement quelqu'un qui apprend à maîtriser un Maya Virupa. Donc à avoir une présence encore physique sur la Terre, mais il n'est pas passé par le processus d'incarnation physique, pas de matière dense.
Il n'y est pas encore passé.
Non. Je ne sais pas. Il y a tellement d'hypothèses.
Il dit, je suis rentré en conscience, il y a seulement un ou deux, et il va très vite apprendre à se servir de son